seven, six, five, four, three, two, one.
The world is going and everything in it.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
L'Europe a inventé le roman, l'avion et le cinéma. Donc, l'Europe a inventé tout ce qui permet à l'homme de bouger, de dépasser les frontières et de vivre dans le monde.
La guerre mondiale dans le monde, ça continue, c'est quand même, il faut le dire, un petit peu le stand-by total.
Il regarde le monde tourner, un globe trottage à contre-courant, en compagnie de Thomas Lacombe.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir en direct de la rue d'Ulm pour la troisième édition de cette journée de la radio. Alors la pause déjeuner est terminée, Valentin vous l'a dit, ne passez pas par la case sieste, rallumez vos transistors, c'est parti pour toute une après-midi de live que j'ai l'honneur d'ouvrir avec ce numéro spécial guerre d'Il regarde le monde tourner, 18e de la série. Vous le savez ou pas, avec cette émission, j'ai l'habitude de vous emmener loin des sentiers rebattus de l'information traitée par les médias traditionnels parce que, honnêtement, répéter ce que tout le monde déforme à force de copier-coller, cela ne m'intéresse pas. Alors on ne déroge pas à la règle, je vous propose donc d'aller dans ces pays où la violence et ses victimes n'ont pas l'honneur d'attirer la compassion occidentale. C'est pourquoi, dans cette émission, nous irons d'abord en Birmanie, où un recensement risque de tourner au drame, puis au Mexique, où les violences liées aux groupes criminels, cartels de la drogue en tête, ensanglantent le nord du pays. Et avec des sujets pareils, je suis sûr que comme Angela Merkel, alias Nicolas Canteloup, d'avance, bien sûr, vous vous dites...
Et je m'en tape la cellulite de rire.
Oh. Oui, donc pas sûr, hein. Et pourtant, c'est pas parce qu'on dit guerre, conflit, mort, etc., que ce sont des sujets sérieux et qu'il faut sortir violon, mouchoir et valium. Non. D'ailleurs, pour compenser ces actualités pas vraiment joyeuses, j'ai tout prévu. En fin d'émission, avec la rubrique « Actualité insolite », eh bien, nous parlerons toujours de guerre, certes, mais de « Guerre des étoiles », oui, bon, je sais, jeu de mots pourri, et de la poisse de Dark Vador, qui ne sera pas président, hélas, et qui risque, en plus, de voir disparaître son village natal. Et cette piste vadorienne nous conduira en Ukraine et en Tunisie. Mais avant cela, pour donner le ton de l'émission, eh bien, je vais vous dire ce que je pense de l'armée. Oui, il faut le dire. Deux points, ouvrez les guillemets. Enfin, c'est plutôt Pierre Palmade et Mr. Saxobit d'Alexandra Stan qui vont le faire mieux que moi. Écoutez.
Pardon, mon colonel. Je suis le chasseur de la guéronnière. J'ai été incorporé il y a quoi ? Une semaine. Et j'avoue qu'il y a deux, trois petites choses dont j'aimerais vous entretenir. C'est pas grave, grave, hein. Mais si vous prenez en compte ce que je vais vous dire, je pense qu'on peut aller vers un peu plus de confort. D'abord, un truc tout bête, c'est la tenue que vous nous faites porter. Qui est très sport, hein, j'en conviens. Mais alors, la couleur. Qui s'est occupé du choix de la couleur? Alors, kaki, vous n'avez pas tapé dans ce qu'il y a de plus reluisant, hein. Alors moi, au début, j'avais pensé à un blanc cassé. Mais j'ai peur que ce soit un peu salissant pour les exercices que vous nous faites faire. Par exemple, un petit rouge bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, oui. C'est vrai que ça n'a pas facilité le camouflage. Je n'insiste pas, alors. Bon, de toute façon, ça, c'était une première chose. Oh! Tous les matins, il y a un type, faut absolument trouver qui c'est. Qui, sur les coups de 6 heures, joue de la trompette ou du saxophone, je ne sais pas ce que c'est comme instrument, et ça réveille tout le monde.
Bon allez, on redevient sérieux. Première étape de notre tour du monde des conflits peu médiatisés, la Birmanie, où un recensement tourne au drame actuellement dans l'indifférence totale. Pourtant, ce recensement, le premier depuis 1983, c'est une chance pour le pays qui sort à peine de la dictature militaire. En effet, il doit faire apparaître les chiffres nécessaires aux grands projets de développement dans un pays où il n'y a aujourd'hui aucune statistique démographique fiable. Mais loin d'être une chance, le recensement en Birmanie ravive les tensions interethniques entre musulmans et bouddhistes. Et de même, il rappelle les faiblesses d'un État birman toujours aux prises avec une rébellion armée dans le nord du pays, si bien que l'on se demande, comme le chante Stromae, si ce recensement est un signe de paix ou de violence.
J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés, leur majeur et leur index toujours en forme de V. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait?
Alors ce sont d'abord les tensions interethniques, je le disais, qui sont ravivées en Birmanie par ce recensement, et tout cela à cause de la volonté du gouvernement d'utiliser une liste controversée de 135 ethnies qui datent de 1982. Or, certaines ethnies ne sont pas reconnues par cette liste, comme les Rohingyas musulmans sunnites, qui sont souvent assimilés à tort à des immigrés clandestins du Bangladesh, alors qu'ils sont établis en Birmanie depuis au moins le début du XIXe siècle. Les Rohingyas, d'ailleurs, ils sont environ 800 000 et ils vivent confinés dans des conditions souvent très difficiles dans l'état Rakhine, qui se trouve dans l'ouest de la Birmanie. Et dans cette région, justement, eh bien, les Rohingyas, ils manifestent contre ce recensement synonyme, ben oui, pour eux, de discrimination. Au même moment, des nationalistes bouddhistes militent aussi pour le boycott du recensement, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. En effet, eux, ils craignent que la minorité musulmane Rohingya n'utilise cette occasion pour revendiquer ses droits. Manifestation contre manifestation, bah oui, à ce petit jeu-là, les débordements sont inévitables, surtout quand personne ne semble vouloir les éviter et on dénombre déjà plus d'une centaine de morts. À Sitwe, la capitale du Rakhine, des foules de bouddhistes ont également attaqué des représentants de l'ONU, accusés d'être pro-musulmans. L'ONU, qui a dû évacuer ses employés, comme l'ont fait par ailleurs de nombreuses ONG à vocation humanitaire, eh bien l'ONU il dénonce depuis le fait que près d'un million de personnes sont privées d'accès aux soins dans l'ouest de la Birmanie. Bref, vous le comprenez, cette situation, déjà plus qu'explosive, est une vraie bombe à retardement, Time Bomb, comme le chante le groupe de pop-punk américain All Time Low. Oui, situation explosive, ce recensement en Birmanie, surtout qu'à côté des violences interethniques entre bouddhistes et musulmans que je soulignais, eh bien, c'est la faiblesse du pouvoir central qui apparaît. En effet, la tâche des employés du recensement, elle est quasi impossible dans deux états du nord du pays, celui de Kachin et celui de Shan, sorte de zone de non-droit contrôlée par la rébellion armée Kia. Effectivement, après 17 ans de cessez-le-feu, le conflit sanglant qui oppose l'armée pour l'indépendance Kachin à l'armée birmane régulière, eh bien, ce conflit a repris en juin 2011. Et malgré le discours pacifique de façade du président birman Thein Sein, le pouvoir birman tue toujours dans l'état de Kachin. Ainsi, on compte plus de 250 000 déplacés du fait de la réquisition d'enfants soldats, de pillages, des viols, de la torture, des exécutions et du travail forcé. On assiste également à de véritables actes de guerre et à des atrocités dont tout le monde semble se moquer ici en Europe. En effet, qui a entendu parler de cette attaque lancée par l'armée officielle birmane avec usage de mortiers et de mitrailleuses sur les villages de Namgao et Namsan? Ben, personne, les auditeurs qui nous écoutaient sur le site internet, vous pouvez nous dire si vous avez entendu parler de cela, mais il ne me semble pas. Et pourtant, il s'agit d'une information signée Info Birmanie et CCFD Terre Solidaire qui date du mois de février. Ces villages, depuis, ils n'existent plus, ils ont été rayés de la carte, et on ne sait pas vraiment ce qu'il est advenu des centaines d'habitants qui les peuplaient, s'ils ont eu le temps de fuir ou s'ils ont péri dans l'attaque. Bon alors attention, hein, il ne faut pas être manichéen, le gouvernement birman, c'est pas les méchants, c'est pas le seul à avoir du sang sur les mains, les rebelles qu'il y a sont loin d'être des saints, ils se livrent eux aussi à de nombreux attentats qui ont également leur lot de morts et d'atrocités. Bref, on parle peu de la Birmanie, alors en partie, il faut l'avouer, hein, parce que c'est très difficile pour les journalistes d'obtenir les visas et d'aller faire leur travail dans ces régions, et pourtant, là-bas, comme le chante Jared Leto et son groupe 30 Seconds to Mars, this is war. To the soldier, the civilian, the martyr, the victim, this is war. It's the moment of truth, and the moment to lie, and the moment to live, and the moment to die, the moment to fight, the moment to fight, to fight, to fight, to fight. Alors, autre tension intra-étatique meurtrière après la Birmanie et ce recensement qui tourne au drame, je vous emmène au Mexique maintenant, où hier, hein, si vous avez suivi l'actualité et avant-hier aussi, François Hollande était en voyage officiel. Alors, pas sûr cependant que son homologue mexicain, Enrique Peña Nieto, lui ait parlé de la violence des cartels qui contrôlent, par la force et la corruption, tout le nord du pays, ensanglantant dans leur lutte fratricide eh bien, ces régions frontalières des États-Unis. Alors non, hein, François Hollande, il a visité le site archéologique aztèque de Teotihuacan avant de se rendre à Querétaro, où vit une importante communauté française et où sont implantées de nombreuses entreprises spécialisées dans l'aéronautique, mais aucun stage de lutte contre les cartels au pays des Faritas et de la Tequila pour notre président qui, certes, n'était pas venu pour ça. Pourtant, le week-end dernier, encore, des affrontements armés entre forces de l'ordre et bandes criminelles ainsi qu'entre les cartels eux-mêmes, ont fait au moins 21 morts dans le Tamaulipas, c'est-à-dire au nord-est du pays. Mais ce n'est qu'un exemple hein, de la réalité d'une violence qui est quotidienne au Mexique, dans le nord du Mexique tout du moins, puisque les autorités mexicaines estiment que plus de 80 000 personnes ont trouvé la mort depuis 2006 au Mexique dans les violences liées aux groupes criminels. Une situation que dénonce d'ailleurs avec radicalité le film Ellie, dont vous avez peut-être entendu parler dans le public ou chers auditeurs, le film d'Amat Escalante, prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, sorti en salle ce mercredi. Je vous encourage à aller le voir, mais attention, je vous préviens. Fixité des plans, frontalité du cadrage, impavidité des personnages et absence d'explication mettent dans ce film le spectateur en face d'une horreur glaciale, crue, insoutenable, scène de torture, d'exécution, spectacle de la corruption au quotidien, rien du tout, hein, ne vient atténuer la noirceur de ce film à charge, pas même la deuxième partie du film consacrée à l'improbable hypothèse de la justice et de la réparation. Donc c'est à voir en salle si vous n'êtes pas déprimé. Bon, face à la noirceur de cette réalité, que ce soit la réalité birmane, la réalité mexicaine, un petit peu d'espoir, de poésie, avec la voix envoûtante du grand monsieur de Dakar, Youssou N'Dour, et son cri « Useless Weapons ». Fital mbouba ma kaganal, mbouro ma kaganal, wanyi jot na tay fital damay tete. Ne golfe bi tek si danoye, ne Vietnam bimboulam. Ne se kishena lol nelaguna fital shen. Donc un cri pacifiste hein, en cette journée de la radio spéciale guerre. Et puis après cette petite bulle de poésie, ben oui, je vous promets hein, de ne pas céder de nouveau à la gravité, de la légèreté avant toute chose, et pour cela préfère l'insolite. Oui, chose promise, chose due, hein, pour clore l'émission, la rubrique Actualité insolite, consacrée, je vous l'annonçais tout à l'heure, à Dark Vador. Oui, hein, qui dit guerre des étoiles. Bon, je sais, c'est un peu ténu comme transition. En même temps, je suis peut-être le fils de Claire Chazal, hein, qui sait. Non mais, sérieusement, comment vous voulez que je sois léger avec pour thème la guerre ? Plus je lisais des articles sur les conflits armés à travers le monde, plus j'étais prostré sur mon lit en train de chanter en boucle.
J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool.
Bah oui, les conflits armés, c'est rarement comique, hein, faut bien le dire. Prenez Bachar al-Assad, par exemple. Même avec un nez rouge, eh bien, il ressemble toujours à Monsieur Spock qui cultive la moustache d'Hitler, mais avec un nez rouge. Du coup, ben, décalons, transposons, oui, parlons, pourquoi pas, de la guerre des étoiles et de Dark Vador, qui est d'ailleurs au centre de l'actualité cette semaine, si je n'invente rien. En effet, Dark Vador, il se présentait à la présidentielle ukrainienne, en vrai, hein, muni d'un passeport réglementaire où l'on pouvait lire, ça ne s'invente pas, « Dark Vador, le Seigneur Sith ». Et il a vu sa candidature rejetée par la commission électorale. Bah oui, tu m'étonnes. Souvent vu sur la place de l'indépendance, notre Dark Vador, avec son casque et sa cape pendant les manifestations contre le pouvoir pro-russe de Viktor Yanukovych, il était pourtant, hein, le candidat officiel du parti ukrainien de l'Internet, qui avait déboursé 157 000 euros en frais de candidature tout de même. Et dans la série Pas de bol Jean-Paul, Dark Vador non seulement ne sera pas président de l'Ukraine, mais va peut-être dire adieu à son village natal, alors qu'à l'instant, oui, vous l'avez reconnu, c'était Kylie Minogue et un extrait de Time Bomb. Vous vous rappelez, hein, tous des maisons en forme d'igloo mais en plein désert, où vit le jeune Annie, futur Dark Vador dans Star Wars ? Eh bien, ce village, il n'est pas vraiment situé sur la planète Tatooine, non. Je vous jure, j'en vois qui sont choqués dans l'assistance, mais il est situé en Tunisie. Oui, alors Dark Vador tunisien, on dirait le pire cauchemar de Marine Le Pen, ou une blague raciste signée par son papa, le borgne gâteux, qui ressemble justement de plus en plus à l'empereur de Star Wars. Et pourtant, ben non, c'est bien une réalité. Le décor de tournage de ce village se trouve bien au sud de la Tunisie et il est menacé par les dunes. Alors pour sauver le lieu mythique, il faut tout de même 137 000 euros. Ce qui est drôle, hein, c'est que si vous avez bien suivi, si Dark Vador ukrainien ne s'était pas présenté à la présidentielle en Ukraine, il aurait pu utiliser pour sauver le célèbre décor de film de son village natal les 157 000 euros nécessaires pour le dépôt de sa candidature, pour sauver son village donc. Ironie du sort, mais un appel aux dons a été lancé, alors à vos bons cœurs, monsieur, dame. Nickelback à l'instant et le titre de circonstance This Means War. Spéciale dédicace à mon frère. Il regarde le monde tourner, c'est terminé. J'espère vous avoir informé et diverti. Je remercie Maxime qui a assuré la régie technique et je vous retrouve tout à l'heure à 16h30 pour l'émission Les yeux ont des oreilles avec Caroline, Camille et Willem. En attendant, après une chronique musicale, je vous laisse entre de bonnes mains et de belles voix, celle d'Olivier Royer et Sarah Agabzi pour Il était une voix à 14h40. Et d'ici là, faites comme moi, surtout n'oubliez pas de regarder le monde tourner.
Merci.